Vous écoutez
RMC. RMC, 19h-20h, Bartoli Time, Jean-Christophe Drouet, Marion Bartoli.
Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue dans l'émission incontournable pour tous les passionnés de sport que vous êtes, mes chers auditeurs. C'est bien évidemment Bartoli Time, un Bartoli Time où nous allons, comme d'habitude, revenir avec précision, enthousiasme et toujours la petite pointe du mot qui nous caractérise sur les sujets brûlants du week-end. Vous le savez, n'hésitez pas à composer le 32-16 si vous voulez réagir sur un sujet, vous n'êtes pas d'accord avec moi ou simplement exprimer votre point de vue. Composez le 32-16, le 100S ouvert. Bartoli Time, c'est aussi ça, une émission d'interaction avec vous, mes chers auditeurs. Ce soir, un moment toujours qui sent le soufre, c'est bien évidemment le classique. Bref, un programme exceptionnel. C'est le moment aussi où j'accueille mon compère, celui qui m'avait lâché la semaine dernière de manière assez bonne. Assez horrible, assez basse, assez horrible. Mais il est revenu quand même, il s'est ressaisi. Bonsoir Jean-Christophe Drouet, comment vas-tu?
Bonsoir Marion, bonsoir à tous, totalement revigoré Marion, ça y est.
Mais oui, ça y est.
À attaquer la dernière ligne droite.
Ça fait du bien les vacances.
De la saison, oh oui, ça fait du bien. Mais forcément, les auditeurs et toi Marion, vous m'avez manqué.
Oh, un tout petit
même
peu.
Si c'est quand même bien les vacances. Bref, avant de vous donner le programme, c'est terminé à la Méno entre Strasbourg et le Stade Rennais. On va confirmer le résultat avec Valentin Germain. Bonsoir Valentin.
Bonsoir tout le monde, victoire 2-0 du Racing Club de Strasbourg avec un but de Senaya à la 71e, Sébas à la 73e. Strasbourg enchaîne un second succès et fait une très grande opération dans la course au maintien, alors que Rennes défait donc, eh bien, rechute et manque une occasion de rentrer dans le top 6. Victoire 2-0 de Strasbourg face à Rennes.
Bonne soirée Valentin, merci beaucoup. Alors Marion, un programme sur mesure ce soir, évidemment la une de Bartoli Time, direction le Stade Vélodrome dans quelques instants pour les toutes dernières informations sur le choc de la Ligue 1 OM Paris Saint-Germain. Mamadou Niang, qui a beaucoup marqué face au Paris Saint-Germain, sera ton invité. Marion, restez bien avec nous.
Il y a un petit message subliminal dans cet invité, tu sais.
Bien sûr. 19h30, nous prendrons la direction de la Belgique pour le Tour des Flandres. 108e édition et l'inévitable Mathieu Van Der Poel qui s'est imposé pour la 3e fois dans ce monument. Le prodige néerlandais, vous l'entendrez dans cette émission, évidemment avec Arnaud Souk, notre envoyé spécial. 19h40, exceptionnel reportage à Indianapolis. Au cœur de la folie, Léon Marchand, lors des finales NCAA. Vous allez voir, c'est absolument dingue ce qui se passe autour de lui. Et puis 19h45, nous retournerons, Marion, au Stade Vélodrome. Aurons-nous la composition du Paris Saint-Germain? Luis Enrique va-t-il vraiment faire tourner? Nos fins limiers, rassurez-vous, sont sur le coup. On se posera cette question également avec Jean-Louis Tour en direct du Stade Vélodrome, car il y a une soirée fabuleuse qui va débuter à partir de 20h, la grande soirée, avec notamment dans cet avant-match Eric Dimeco. Tu l'as dit Marion, le 32-16 pour participer à cette émission. Et puis, un très beau cadeau à vous faire gagner.
D'habitude, vous savez bien qu'on est généreux dans cette émission.
Nous vous offrons le tout nouveau maillot de l'équipe de France de football.
Il est très beau d'ailleurs.
Tout juste de sortir pour l'Euro 2024.
Très, très
vous avez pu l'apercevoir notamment lors de France-Allemagne il y a une semaine. RMC, radio officielle de 7 euros. Et grâce à Intersport, vous allez pouvoir le remporter. Vous vous inscrivez tout de suite en envoyant bleu par SMS au 732-16. Bleu au 732-16. Le grand gagnant sera avec nous en direct un petit peu plus tard avec Marion Bartoli. Marion, t'es prête?
Je suis prête.
Allez, le choc de l'année en Ligue 1.
Et Thauvin, je suis en jeu. Oh, c'est pas dans le jeu. Et la volée de Thauvin. Et ça fait 1-0 pour l'Olympique de Marseille. C'est parti. Oh, la barre transversale, le but. L'égalisation incroyable des Parisiens. Un coup franc sublime d'Edinson Cavani.
Ronaldinho, ça bouge devant la cage de Rognon. Et c'est le but.
Allez, si bien. Et oui, Dimeco, procès du droit, allez.
Mbappé, Mbappé, il n'y a pas d'enjeu et ça fera 3-0.
Quel but, fabuleux but de Basile Poli, fabuleuse action marseillaise.
Kylian Mbappé, l'enroulé de Kylian Mbappé, 4-0 pour le Paris Saint-Germain.
Le centre de Mbappé Gendouzi, oh le but marseillais.
Oh le but, oh le but exceptionnel encore une fois, Pedro Miguel.
La une de... de Bartoli Time.
Ah, on aime évidemment
ça donne toujours les frissons. Hein.
Bien sûr, on aime ces soirées, même si c'est vrai que ce soir, 20 points séparent les deux équipes au championnat. Mais il y a
ça va, le rabat-joie de service.
Non, mais il y a toujours, car il y a un mail, il y a toujours cette odeur de soufre, un parfum des grands soirs pour cet OM PSG. On retrouve tout de suite Florent Germain, l'un de nos envoyés spéciaux au Stade Vélodrome. Bonsoir, Florent.
Salut JC, salut Marion.
Bonsoir Florent.
Salut à tous.
Alors déjà évidemment
il y a une ambiance de malade devant le Vélodrome. Mais bien sûr j'y crois. Non mais c'est quoi que cette question? Tu as pu venir participer à mon émission.
Tu y crois Marion? Tout de suite là, la question, la connivence marseillaise. On vous aime pour ça aussi.
En tout cas j'ai vu plein de vidéos circuler sur les réseaux sociaux. C'est déjà chaud et depuis 3-4 heures devant le Vélodrome.
Bah, Florent justement raconte-nous, toi qui es au cœur de l'action, raconte-nous un petit peu cette ambiance.
C'est vrai que c'est un baromètre important, ce parvis du Vélodrome, quand il est rempli dans un match classique, c'est 1h, 1h30 avant le match, et là depuis 16h, 16-17h, en plus demain c'est lundi de Pâques, je vous apprends rien, donc forcément il y a aussi des familles, il y a beaucoup de monde autour du stade et même dans la ville. Marseille vibre pour ce classique et ce OM-PSG, feu d'artifice dès 17h devant le stade. Alors c'est peut-être un petit peu trop pour certains, mais en tout cas ça devient une habitude. On appelle ça le FC Parvis à Marseille, hein, vous savez. C'est un groupe de supporters qui se réunit et qui met l'ambiance. Parfois ça va même un petit peu trop loin, effectivement, mais là il y a une ambiance qui est énorme depuis le milieu de l'après-midi. Ce qui vient un peu doucher l'enthousiasme de cet avant-match, c'est la pluie, parce que depuis une demi-heure il pleut, il vente. Il y a des courageux qui sont déjà dans le stade, mais c'est vrai que il va falloir, on l'espère, que ça se calme niveau de météo, parce que forcément pour arriver au stade ou pour s'enflammer dans l'avant-match, cette pluie peut parfois un petit peu retenir les plus fervents supporters. Mais malgré tout le stade sera plein, record d'affluence qui va être
historique.
Battu 60 quasiment 66 000 personnes en fait, hein. Je pense que le marketing joue bien le coup, parce qu'on peut se poser la question, comment on fait pour battre un record d'affluence dans un stade qui est souvent un guichet fermé?
Je suis d'accord.
Déjà,
le parquage, mais le parquage extérieur,
exactement, le parquage extérieur, on peut revendre les places. Bon, c'est normal, hein, puisqu'on va pas laisser des sièges vides. Et puis après, il y a un petit jeu marketing où parfois à 5, 10, 20, 50 billets près, tu crées un événement. Et effectivement, le dernier record d'affluence, il date de OM-PSG en février dernier, c'était en Ligue 1.
En Coupe de France.
Et là,
C'était en Ligue 1.
Effectivement, la Coupe de France était arrivée, était 15 jours ou 3 semaines avant, et c'était une victoire marseillaise. Alors, est-ce que à Marseille, on y croit? Forcément, plus le coup d'envoi approche, plus il y a cette envie d'y croire. Et tout au long de la semaine, j'ai senti effectivement que les supporters marseillais étaient un peu inquiets par les blessures, par les deux dernières défaites avant la trêve, etc. Mais malgré tout, et j'ai vu la lessive d'une partie du Vélodrome quand Benoît Bastien et ses assistants sont venus tester la VAR. Il y a quelques membres du staff du PSG, alors que le bus n'était pas arrivé, qui sont venus installer 2-3 choses. Ils se sont fait conspuer par le public. Donc c'est un match à part et ça se sent 1h30 avant le coup d'envoi.
Florent, avant de te réécouter dans quelques instants, on va écouter des supporters marseillais partagés sur ce match ce soir face au PSG. Partagés non pas par celui qu'ils soutiennent, car les supporters marseillais à fond derrière l'OM, mais forcément en face ce sera le Paris Saint-Germain.
Franchement, je pense qu'on peut les accrocher. On peut les accrocher sur les matchs, on peut les accrocher bien bien.
Alors, en tant que supporter de l'OM, je suis obligé d'y croire, mais ça va quand même être difficile. On va prier.
Paris, le problème c'est que tu as le facteur Mbappé, et tu sais que si tu as Mbappé qui te plante un gros match, ben c'est fini quoi. Mais moi je vois pas gagner, à la limite arracher un nul, mais gagner ça me semble compliqué.
On n'est jamais traumatisé. Non, on y croit toujours en tant que supporter, on est obligé d'y croire. Mais après ouais, c'est sûr c'est compliqué, c'est une équipe dans un autre championnat, on va dire. En plus surtout cette année, on a du mal, donc ça va être compliqué, ça c'est sûr.
Je suis pas traumatisé, moi on les attend de pied ferme. Et maintenant on est invaincu au Vélodrome, donc on va leur montrer ce que c'est, quelque chose, un stade où il y a le bouillon.
Alors Marion, si le Paris Saint-Germain joue une suprématie, on va dire, entre les deux rivaux, même si le PSG joue pas grand chose au niveau comptable ce soir du championnat, Marseille est 7e à 3 points de Lens, 6e, donc Marseille a des choses aussi à prendre, des points à aller chercher quand même dans cette rencontre.
Bien évidemment, il faut absolument se relancer pour Marseille en Ligue 1, mais j'irai plus loin dans l'analyse de ce classique. Pour moi, effectivement, comme l'a dit le supporter dans le sujet de Florent, l'OM au Vélodrome cette saison, c'est aucune défaite. Autant l'année dernière, c'était l'inverse, c'est-à-dire que l'OM jouait très très bien à l'extérieur, il n'arrivait pas à domicile. Cette année, autant à l'extérieur, il y a eu d'énormes soucis, autant à domicile, ils étaient capables réellement de performer et réellement, avec l'aide du public, de faire une énorme différence. Aujourd'hui, le PSG, qu'est-ce qu'ils ont à jouer en Ligue 1? Finalement, plus grand-chose, parce que tu l'as dit, effectivement, il y a une avance confortable. Je ne parle même pas de l'écart avec l'OM, même l'écart avec Brest, même si Brest vient de gagner cet après-midi, il leur reste quand même un matelas.
9 points, ouais.
Voilà, extrêmement confortable, donc ils ont quasiment toutes les mains sur la coupe. Donc, qu'est-ce qu'ils jouent? Ils jouent finalement une demi-finale de la Coupe de France qui arrive mercredi contre Rennes au Parc, et dans 10 jours, le Barça en quart de finale de Champions également au Parc. Donc, tu te dis qu'effectivement, pour Luis Enrique, qui n'a peut-être pas autant la fibre du classique parce que c'est un entraîneur espagnol, c'est un entraîneur étranger et qu'il a en point de mire d'accrocher tous les trophées cette année, que tu peux éventuellement penser à faire tourner un peu plus même que prévu. Et regardez les matchs précédents lorsque l'OM s'est imposé. Je parlais du match de Coupe de France, il y avait quand même sous la pelouse Neymar, Messi, Hakimi, Verratti, Sergio Ramos. Il manquait qui ? Kylian Mbappé. Et là où je suis parfaitement d'accord avec l'auditeur que vous avez écouté dans le sujet, c'est qu'effectivement Mbappé peut être le facteur X, peut être celui qui sur un gros match en plante 2 ou 3 et malheureusement pour l'OM va tuer le match. Mais si il n'est pas là parce que Luis Enrique décide de faire tourner, si l'OM joue avec le cœur, met de l'engagement et poussé par le 12e homme qui bien évidemment avec le public, sur un match, pour moi tout est possible. Ils l'ont prouvé en Coupe de France l'année dernière, ils l'ont prouvé au Parc. Alors oui, c'était pendant le Covid et oui, il n'y avait pas les spectateurs, mais l'OM a joué avec énormément d'engagement physique. D'ailleurs, il y a eu 14 cartons jaunes et 5 cartons rouges. Alors, c'est pas ce que je souhaite pour le match de ce soir, mais ça démontre quand même une énorme envie d'aller gagner ce match. Et pourtant, Paris avait archi dominé, puisqu'on était à 70-30 en termes de possession de balles pour Paris et 14 tirs à 5. Et malgré tout, l'OM était arrivé à arracher une victoire. Donc, je pense que ce soir, il faut vraiment se baser là-dessus. L'OM a en revanche énormément de choses à jouer, énormément de choses à se prouver. Devant un stade, on l'a entendu avec Florent, qui va être complètement acquis à sa cause, bien évidemment. Sur un match, tout est possible.
Et Mamadou Niang sera notre invité dans quelques instants dans Bartoli Time.
J'y sais, Marion, que les résultats de l'après-midi, là, avec Nice qui se fait battre, Rennes qui se fait battre, font que tu as presque le droit d'aborder ce match avec une positive attitude. Parce que s'il y avait eu ces victoires niçoises ou rennaises, vraiment, Marseille était sous pression, et comptablement aussi. Là, j'ai le classement sous les yeux. Évidemment, s'il y a un succès, Marseille recolle et est à égalité avec Lens. Mais ce ne serait pas terminé, même en cas de défaite. Donc je pense que Jean-Louis Gasset, il va aborder ce match un peu de cette manière et dans son discours, Marion,
Et surtout,
moi, ce qui me revient beaucoup depuis que Jean-Luc Gasset a pris les rênes de cette équipe, c'est qu'il est très très fort dans ses discours. Il arrive à toucher le groupe par ses causeries, par ses mots. Et c'est pas la première fois que j'entends ça, même quand il était adjoint de Laurent Blanc, en équipe de France ou au PSG. Il était souvent respecté et en peu de mots, il savait toucher du doigt l'endroit et les mots qu'il fallait pour avoir la motivation nécessaire. Donc là, je pense que Jean-Louis Gasset aborde ce match et savoure ce choc-là et il saura trouver
les mots. Il va falloir galvaniser les troupes, ça c'est certain.
Pour galvaniser son équipe, c'est sûr.
Justement, vendredi, tu l'as rencontré en conférence de presse et pour lui, rien n'était perdu pour cet Olympique de Marseille, même face à ce PSG-là.
On sait qu'on est attendu, on sait que le stade est archi-comble. Je pense qu'il y a eu je ne sais pas combien de demandes. C'est le match. C'est les deux équipes les plus titrées de France. Il y a un écart au niveau du classement. C'est déjà plié pour le titre. Mais sur un match, contrairement à d'autres sports, si vous faites de la boxe et que vous battez contre Tyson, ça ne va pas durer longtemps. Si vous jouez au tennis contre Nadal, il va vous mettre 6-0. Dans un match de football, il y a cet espoir. Et c'est pour ça que ce métier est magnifique.
Cet espoir pour les Marseillais et pour Jean-Louis Gasset. Florent, il faut quand même rappeler que pour Marseille, on se disait, bon, c'est un match qui arrive après la trêve internationale. Tant mieux, ça va permettre de recharger les batteries, de le préparer au mieux. Et pourtant, ce n'est pas ce qui s'est passé, Florent.
C'est vrai qu'il y a eu des contrariétés pendant la trêve internationale. Les deux principales, ce sont les blessures de Bamo Meïté et de Jonathan Clauss, parce que elles étaient évidemment totalement inattendues. Bamo Meïté qui voit Luis Enrique lui tomber dessus lors d'une simple opposition à l'entraînement, et c'est un joueur qui peut être précieux et qui permet souvent à Jean-Louis Gasset ou de faire tourner ou aussi de mettre un système avec trois axios ou permettre à Mbemba d'avoir un positionnement un peu différent. donc ça a été une contrariété pour Jean-Louis Gasset. Et puis Jonathan Clauss qui se claque en plein match, on l'a tous vu au Vélodrome contre le Chili avec l'équipe de France. Donc, deux joueurs qui sont absents, et puis il y a eu les incertains, mais des incertains qui sont dans le groupe et qui sont au Vélodrome, puisque le bus est arrivé il y a 5 petites minutes, et des joueurs comme Gigot, comme Ulysse Garcia, comme Pape Gueye ou comme Léo Balerdi sont dans le bus, sont descendus du bus, sont dans les vestiaires. Seront-ils titulaires ? Pour certains, j'ai encore un petit doute, donc on va attendre la compo d'équipe. Mais ce qu'on disait tout à l'heure dans une autre émission, c'est que avec Flora, c'est que quand on regarde la compo d'équipe probable, avec des Harit, Ndiaye, Aubameyang, Veretout, Kondogbia, Merlin, Mbemba, ce sont des joueurs qui sont des habituels titulaires. Donc cette équipe, elle a malgré tout fière allure. Peut y avoir effectivement le paramètre du coaching ou le banc des remplaçants sera un petit peu léger, mais à la limite depuis le début de saison, en général, ce sont deux, trois changements qui sont faits. Et le banc a toujours été léger, donc il n'y aura pas d'excuses à ce niveau-là. En tout cas, c'est Paul Lopez qui le disait cette semaine, juste avant Jean-Louis Gasset. Il disait, écoutez, certes, il y a eu quelques pépins physiques, mais croyez-moi, le 11 tiendra la route et il ne faudra pas se cacher derrière ça. Donc l'OM est un peu diminué, mais malgré tout, a un 11 qui peut bouger le PSG.
Bon, dès qu'il se passe quelque chose, en tout cas, évidemment, Florent Germain, tu n'hésites pas à nous appeler. On est en direct avec toi du stade Vélodrome. Dès que tu as des informations sur les compositions des deux équipes, évidemment, priorité à ce match OM Paris Saint-Germain. Alors Marion, ce soir c'est l'événement sur RMC, je le disais, forcément tu avais envie de recevoir un Marseillais qui en a gagné des OM PSG.
Alors ce soir je reçois un invité exceptionnel dans Bartoli Time, celui qui a marqué les plus grandes années de l'Olympique de Marseille, celui qui a été capitaine même de l'OM lors de la fameuse saison 2009-2010 où il termine meilleur buteur de la Ligue 1, l'année où l'OM bien évidemment réalise le doublé championnat Coupe de la Ligue, celui qui en a gagné des classiques, n'est-ce pas Mamadou Niang? Bonsoir, comment vas-tu?
Bonsoir Marion, comment tu vas?
Écoute, ça va très bien, je t'avoue un peu stressé parce que les jours de classique c'est toujours un petit peu stressé. Donc justement, je voulais avoir ton ressenti, toi, en tant que joueur, puisque tu en as joué énormément des classiques. C'est quand même un match très particulier. Est-ce que la tension se sentait dès le début de la semaine? Est-ce que lorsque le calendrier sortait, c'était des matchs que vous cochiez déjà à l'avance? Comment ça se passait dans le tunnel avant de rentrer sur le terrain? Voilà, est-ce que tu peux nous raconter ces moments extrêmement particuliers que sont les classiques en Ligue 1?
Bah oui, c'est sûr. Bah, je pense que ce soit du côté de Marseille ou du côté de Paris, à chaque fois qu'on signe dans ces deux clubs, la première chose qu'on fait, c'est de cocher ces deux dates, que ce soit le Classico à Paris ou à Marseille, pour on a hâte de les jouer. Et comme d'habitude, depuis le début de semaine, on a senti la pression monter petit à petit. C'est vrai que les gens parlent toute la semaine de ce match, donc c'est un match très important dans la saison pour nous, et c'est vrai que moi qui ai eu la chance de pouvoir en jouer énormément, c'est des matchs qui sont particuliers, où il y a beaucoup de stress, de pression et d'engouement surtout de la part du public, et on a vraiment hâte à chaque fois d'y être.
Alors Mamadou, toi tu as beaucoup marqué contre le PSG, tu as marqué au Parc, tu as marqué au Vélodrome, tu en as joué 9 des classiques, un très bon bilan pour toi, 6 victoires et seulement une défaite, mais c'était avant que les Qataris reprennent la PSG. Est-ce que c'était la belle époque de ces classiques et que beaucoup de choses ont changé depuis?
Oui, c'était la belle époque parce que même si on a eu énormément de victoires pendant cette période, ça a toujours été des matchs très accrochés, des matchs très équilibrés, où on se rendait coup pour coup. C'est vrai qu'on avait, on prenait l'avantage très souvent, mais c'était des matchs qui étaient vraiment très très durs à jouer. Et c'est vrai que depuis que les Qataris sont au pouvoir et qu'ils sont arrivés au sein du Paris Saint-Germain, ça s'est petit à petit déséquilibré et Paris a pris le dessus sur l'Olympique de Marseille sur les classicos. Mais bon, ça reste toujours un match de football où tout peut arriver. Tout peut arriver. Il va falloir mettre les ingrédients pour Marseille pour pouvoir embêter et jouer leur chance à fond pour essayer de gagner contre Paris. Mais c'est vrai que Plus les années passent, plus on sent que c'est de plus en plus difficile de battre cette équipe de Paris.
Mamadou Niang, invité exceptionnel de Bartoli Time ce soir. Avant cette rencontre, c'est à 20h45, le choc entre l'OM et le PSG. Marion avec Mamadou.
Alors, je vais revenir sur le match de ce soir, bien évidemment, et sur l'actualité de ce classique. Mais comme je l'évoquais en préambule de cette interview, tu es un buteur historique de l'Olympique de Marseille. Tu es même dans le top 10, 8e meilleur buteur de l'histoire de l'OM. C'est la vérité, tu as marqué ton 100e but sous le maillot marseillais. D'ailleurs, ton 100e but de Ligue 1. Si tu avais fermé les yeux aujourd'hui, nous raconter ton plus grand souvenir d'un classique, ça serait lequel ?
Le plus grand souvenir d'un classique, je pense que c'était la victoire où on avait gagné 3-1 au Parc des Princes, où
Samir Nasri marque
sur penalty, voilà. Ouais. J'obtiens le penalty du 1 où Samir le transforme, et le troisième but sur le déboulé de Franck sur le côté gauche, qui est une action incroyable et qui fait un magnifique centre sur Meka Pagis, et on sort de ce match avec les 3 points, avec cette victoire 3-1 au Parc. Mais c'était surtout le fait d'avoir fait un match abouti, un match complet ce soir-là, où on avait vraiment dominé du début à la fin sur ce match-là. Donc si j'ai un match à retenir, ça sera ce match-là.
Quand tu dis Franck, c'est Franck Ribéry, hein, bien sûr, pour nos auditeurs.
Oui, alors, exactement.
Pour ce soir, revenons à l'actualité. Est-ce que, selon toi, l'OM a une chance?
Oui, on a toujours des chances quand on joue un match de football, parce que voilà, ça reste un match à 11 contre 11, même si Paris part largement favori. Mais voilà, ça va être compliqué parce que Paris sort d'une victoire contre Montpellier où ils ont mis 6 buts, oui. Où ils sont en forme. On a pu voir que Kylian Mbappé en championnat est très en forme. On a pu voir que Randal Kolo Muani revient très bien. Et que le collectif parisien marchait très bien en ce moment. Donc voilà, ça va être compliqué pour l'OM, mais bon, c'est à eux aussi, comme je l'ai dit tout à l'heure, de mettre tous les ingrédients de leur côté pour essayer de perturber cette équipe parisienne.
Alors, en Ligue 1, et cette stat me fait vraiment mal au cœur, je peux te dire de la dire, mais la dernière victoire de l'OM au Vélodrome en championnat remonte à 13 ans. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui l'OM fait un petit complexe d'infériorité face à cette équipe, ou finalement ils les ont battus en Coupe de France au Vélodrome et c'est juste un concours de circonstances qui fait qu'en Ligue 1 ils ont un peu plus de mal?
Non, je pense que Paris est au-dessus de tout le monde en Ligue 1, et puis s'il n'y a pas de complexe d'infériorité, parce que moi si mes souvenirs sont bons, il y a eu plusieurs matchs où l'OM avait fait des gros matchs, Paris était revenu au score. Je me rappelle notamment sur le match où Cavani égalise à la dernière minute.
Ah non, m'en parle pas, j'étais dans le stade. Ah non, m'en rappelle pas ces souvenirs, voilà. S'il te plaît.
Voilà, c'est ce genre de match que je te parle, où Marseille avait très bien joué, mais malheureusement n'avait pas réussi à battre cette équipe de Paris. C'était soit un match nul, ou soit Paris faisait la différence avec ses individualités, et on sortait de ces matchs-là avec beaucoup de frustration. Mais voilà, comme j'ai dit, Marseille à chaque fois et très souvent a fait des bons matchs contre Paris, mais Paris à chaque fois est sorti vainqueur.
Mamadou Niang ce soir dans Bartoli Time, un peu plus d'une heure du coup d'envoi d'OM PSG. Marion, tu voulais avoir le regard aussi, je crois, de Mamadou Niang sur cet OM aujourd'hui.
Alors l'OM cette saison, ça a été un petit peu compliqué, il y a eu 3 entraîneurs différents, il y a eu pas mal de discussions aussi en dehors du terrain, et le problème des supporters au début de saison. Bref, une année très mouvementée. Quel est ton regard, toi, sur cet OM, et est-ce que tu crois qu'ils peuvent aller encore plus loin en Ligue Europa, et comment tu les vois finir en Ligue 1?
Oui, moi, l'analyse que je fais, c'est que cette année, à l'Olympique de Marseille, c'est 19 matchs à domicile, toutes compétitions confondues, où il y a 0 défaite.
Ouais.
Mais paradoxalement, l'année dernière, on était moins bon à domicile et on était plus performant à l'extérieur, ce qui nous a permis de jouer ces deuxièmes passes pratiquement jusqu'au bout, et on a fini finalement troisième. Et cette année, c'est l'inverse. On est performant à domicile, même si on pourrait pratiquer un jeu encore plus, un jeu meilleur, mais on est performant à domicile, mais malheureusement, à l'extérieur, on n'arrive pas à prendre des points. C'est ce qui fait qu'on a un déficit de points cette année et qu'on se retrouve à cette position-là au classement. J'aimerais que l'OM ait plus d'efficacité à l'extérieur, qu'il rapporte plus de points, plus de victoires, pour pouvoir voir plus haut au niveau du classement. Mais ils ont les qualités pour le faire. Ils ont, On a vu à Rennes, même s'il y a eu cette défaite de 2-0 sur la deuxième mi-temps, l'OM a dominé cette équipe rennaise, qui est une très très belle équipe, hein, avec un très bel effectif et un super coach. Mais ils ont réussi à faire une très très belle deuxième mi-temps. C'est qu'ils en sont capables, qu'ils ont les qualités pour le faire, et j'espère qu'ils vont en prendre conscience et qu'ils vont finir cette fin de championnat en trompe, parce qu'il y a des matchs difficiles qui les attendent avec ce match contre Lille et contre Nice qui arrive. Voilà.
Ça, c'est sûr. Alors, Mamadou, il y a une petite musique qui commence à monter où on dit que le PSG pourrait éventuellement faire tourner pour ce classique. Luis Enrique aura annoncé d'ailleurs ne pas s'interdire. Est-ce que pour toi, ça finit par être un manque de respect pour l'équipe de Marseille et pour ce que ça représente le classique en Ligue 1 aujourd'hui ?
Non, du tout. Parce qu'aujourd'hui, l'effectif du PSG n'a rien à envier aux plus gros effectifs des gros clubs européens. Aujourd'hui, même si tu peux sortir un Gonzalo Ramos et le remplacer par un Colomwani, tu peux sortir un Ousmane Dembélé et le remplacer par un Barcola. Il y a des joueurs comme Vitinha. Il y a vraiment beaucoup de talent dans cette équipe parisienne. Donc ça ne change rien. Ça va être une grosse équipe de Paris qui va se présenter ce soir, au Vélodrome. Voilà, ce soir au Vélodrome, ça va être une grosse équipe parisienne et il va falloir pour les Marseillais vraiment mettre les bouchées doux pour remporter ces 3 points ce soir.
Alors, Kylian Mbappé a foulé la pelouse du Vélodrome déjà durant la semaine. C'était bien sûr le match contre le Chili en équipe de France. Là, il revient au Vélodrome. Est-ce qu'à ton avis, il va commencer le match ? Est-ce que Luis Enrique va complètement laisser au repos ? Est-ce qu'il doit jouer ce Classico ? Est-ce que tu as une petite idée là-dessus ?
En tout cas, je sais que lui, il a envie de le jouer parce qu'il sait que ça va être, a priori, son dernier classico ou son dernier match au Vélodrome, parce qu'il va sûrement quitter Paris Saint-Germain à la fin de saison. Donc, oui. il a vraiment envie de jouer ce match parce que c'est des matchs qu'on a envie de jouer, hein, que je l'ai dit tout à l'heure. C'est
quand on signe
au PSG ou quand on signe à l'Olympique de Marseille, les deux premiers matchs qu'on coche sur le calendrier, c'est ces matchs-là. Donc, Kylian Mbappé, c'est un compétiteur, c'est un gagneur. Il a envie de jouer pour pouvoir marquer des buts, pour pouvoir marquer les esprits et surtout rentrer encore un peu plus dans l'histoire du PSG.
Est-ce que tu as un petit pronostic, Mamadou, à nous donner ? Ou tu veux pas t'engager ? Comme tu veux, c'est toi qui choisis.
C'est dur parce que mon cœur est marseillais à 100%. J'ai envie que Marseille gagne. Mais je sais que ça va être difficile.
Un petit 1-0 l'OM, allez.
Donc je dirais 1-0 l'OM. Mais 1-0 l'OM. Même si je sais que ça va être compliqué.
Bon, merci beaucoup Mamadou. Merci pour ton expertise, merci pour ton temps.
Avec plaisir.
Et puis on va suivre ce match bien sûr avec beaucoup d'attention sur RMC. Merci à toi.
Merci
et
à bon toi,
match.
Merci à toi aussi. Au revoir.
Et oui, merci Mamadou Niang pour ce moment avant OM PSG. D'ailleurs Marion, on vient juste d'apprendre l'information. Kylian Mbappé est titulaire et oui. Capitaine pour cette rencontre face à l'Olympique de Marseille. On se posait la question depuis quelques jours. Eh bien, la décision est tombée. Information RMC Sport, information de nos envoyés spéciaux au Stade Vélodrome que l'on retrouvera dans quelques instants. Un point aussi sur un choc en Première Ligue entre City et Arsenal. Yuan Brenov, bonsoir, c'est terminé, un choc qui a laissé à désirer en fin d'après-midi.
Salut JC, salut Marion, c'est exactement ça. Pas de but entre Manchester City et Arsenal. Match très tactique, la possession pour les Citizens et Arsenal qui était regroupé en défense a tenu pour les hommes de Mikel Arteta. 0-0 donc, il y a un grand gagnant pour cette journée, c'est Liverpool qui avec sa victoire tout à l'heure contre Brighton prend 2 points d'avance sur Arsenal et 3 sur Manchester City. Ce trio va lutter jusqu'au bout pour le titre. Prochain rendez-vous pour ces équipes mercredi, City Aston Villa, Arsenal Luton et jeudi Liverpool accueille Sheffield. Voilà, 0-0 entre City et Arsenal.
Merci beaucoup Johan, bonne soirée. 19h28, on se retrouve dans quelques instants avec Marion Bartoli pour Bartoli Time, avec une double ration de Bartoli à la folie, le Tour des Flandres mais également la folie Léon Marchand aux États-Unis. À tout de suite sur RMC et dans quelques minutes nous retournerons au Stade Vélodrome évidemment pour les toutes dernières informations. Kylian Mbappé sera donc capitaine et titulaire ce soir pour le Paris Saint-Germain. À tout de suite.
RMC jusqu'à 20h,
Bartoli Time, Jean-Christophe Drouet,
Marion Bartoli.
19h32 de retour dans Bartoli Time sur RMC. Avant qu'on enchaîne sur le vélo et la natation, j'aimerais juste passer un tout petit message en hommage à Pav Diouf qui ce 31 mars il y a 4 ans nous a subitement quittés à jamais, bien évidemment, un ancien président emblématique de l'Olympique de Marseille. Nous lui rendons hommage ce soir.
Tu as bien raison, Marion, et c'est vrai qu'il y aura beaucoup de personnalités marseillaises, notamment Éric Guéretz, au stade Vélodrome avant cette rencontre et ce match fantastique. On l'espère fantastique dans un peu moins d'une heure 15 maintenant, coup d'envoi 20h45. Vous rappelez un petit peu votre programme ce soir à partir de 20h, la grande soirée autour de Jean-Louis Tour avec Florent Germain, Jeannot Rességuier, également Eric Dimeco, tous en direct du stade Vélodrome.
J'espère qu'Eric sera en grande forme.
Bien sûr, forcément, mais... avant cette rencontre, l'avant-match donc de 20h à 20h45, la rencontre et puis ensuite l'after, la libre antenne jusqu'à 1h du matin. Bref, RMC a mis les petits plats dans les grands pour vous régaler ce soir autour de cette rencontre. Et puis sachez que dans quelques instants, on développera cette actualité avec Jean-Louis Tour en direct du stade Vélodrome. Mbappé est donc bien titulaire ce soir et même capitaine du Paris Saint-Germain. Mais tout de suite, Bartoli à la folie. Double ration ce soir, on débute par le Tour des Flandres.
Seul contre tous aujourd'hui, Mathieu Van Der Poel, il a étouffé littéralement la concurrence en plantant sa banderille dans les terribles pourcentages du Koppenberg à 45 km de l'arrivée. Personne ne l'a revu. Une heure plus tard, l'arc-en-ciel peut surgir et il va pouvoir lever les bras dans quelques instants ici sur la ligne d'arrivée. C'est lui l'empereur ici de Donnerde, l'empereur des Flandres, l'empereur du rond 2, Mathieu Van Der Poel, qui va carrément descendre de son vélo sur la ligne d'arrivée. L'image est saisissante pour l'histoire. Fabuleux Mathieu Van Der Poel qui soulève son vélo et qui le tient à bout de bras. Mathieu Van Der Poel est tout simplement unique, victorieux ici du rond 2.
RMC Bartoli à la folie.
Ouais, magnifique image, hein, incroyable Mathieu Van Der Poel.
Comme
il était exactement l'archi favori de cette course et il a assumé son statut en direct de Belgique. Arnaud Souk est avec nous, notre commentateur. Bonsoir Arnaud.
Salut les amis.
Bonsoir Arnaud.
Arnaud, on va pas se mentir, hein, c'était pas le plus grand des Tours des Flandres de l'histoire, mais quel succès incroyable. Hein. Quel succès quand même. Van Der Poel, il entre un peu plus dans l'histoire.
Ouais, oui, parce que troisième succès sur le Tour des Flandres, voilà, il y avait six coureurs avant lui qui avaient réussi ce triplé sur cette épreuve qui est l'une des plus dures, hein, du calendrier. Il y avait notamment, pour les plus récents, on va dire, Johan Museeuw, Tom Boonen et Fabian Cancellara. Ils rentrent donc dans ce club très fermé, désormais sept triples vainqueurs du Tour des Flandres. Donc voilà, ça marque encore un petit peu plus l'histoire, mais avec Mathieu Van Der Poel, on avait l'habitude. C'est vrai que tu l'as dit, c'était pas le plus beau Tour des Flandres, mais dans le sens où il manquait de suspense. Après, voilà, on aurait eu Wout Van Aert, on aurait eu Tadej Pogacar, ça aurait peut-être été différent, mais saluons la performance de Mathieu Van Der Poel qui était tout simplement intouchable et lui, il a fait ce qu'il avait à faire en attaquant à 45 km de l'arrivée.
Et tu l'as retrouvé après la course, on va écouter Mathieu Van Der Poel, le grand gagnant.
Je suis vraiment cramé. Je pouvais plus rien faire les 10 derniers kilomètres, c'était juste... J'ai presque fermé les yeux pour rentrer, j'étais vraiment à mon limite... C'était vraiment très dur avec la pluie et les températures aujourd'hui. C'était un des plus dures courses que j'ai fait déjà. Surtout le plus dur ronde que j'ai fait. Je suis très heureux de gagner dans ce maillot. Ma saison, elle est fantastique maintenant.
La saison est fantastique, c'est vrai. Marion, on a l'impression que tout est simple pour lui, mais il faut quand même dire. Le Tour des Flandres, c'est un monument et c'est une course incroyablement difficile.
Exactement, et puis je l'ai suivi toute la journée. Il y a eu vraiment une météo extrêmement compliquée, énormément de pluie. Moi, les images qui m'ont marqué, c'est qu'il y a eu beaucoup de coureurs qui, justement, dans le Koppenberg, n'arrivaient pas à rester sur leur vélo et à pédaler. On était obligés de descendre, de pousser leur vélo tellement ça glissait, c'est sur les pavés, bien évidemment. En plus, ils n'arrivaient pas à développer assez de puissance musculaire pour arriver à monter ces pavés sans descendre du vélo. Donc, l'exploit qu'a réalisé aujourd'hui Mathieu Van Der Poel est absolument incroyable. Petite anecdote, alors je pense qu'Arnaud l'a bien évidemment vu, c'est l'erreur quand même de la Jumbo, alors même si ça n'a pas eu une incidence en tout cas sur la victoire parce que Mathieu Van Der Poel était déjà parti, mais l'erreur de lui donner de mauvais vélo à Benoît, où il se trompe, il lui donne le vélo de Dylan Van Baarle, donc pour une équipe qui effectivement normalement est très très au point sur tout ce qui est petits détails logistiques, là il y a eu quand même une faute assez énorme, mais c'est vrai qu'aujourd'hui Mathieu Van Der Poel a été tout simplement stratosphérique et a totalement écrasé la concurrence.
Il était au-dessus, mais signe de fébrilité, non, de la Jumbo, Arnaud?
Oui, signe de fébrilité, tout est relatif. Après, sans Wout van Aert, enfin, tout est relatif, bien sûr, c'est quelque chose qui est assez étonnant de la part des Néerlandais, mais sans Wout van Aert, en fait, il manquait à la Visma Liseberg sa principale cartouche, tout simplement. Et Tijs Benoot, oui, c'est un bon Flandrien, mais le Tour des Flandres, c'est quand même un parcours et un profil très, très particulier. Voilà, la réalité, c'est que Jorgensen a été l'un des seuls à réussir à suivre Mathieu van der Poel dans le Koppenberg. Il a basculé en haut du Koppenberg avec quelques secondes de retard. Il a essayé pendant quelques minutes de revenir sur lui. Il a réussi à maintenir un écart à 5, 6, 7 secondes et puis d'un coup il a explosé en vol. Mais ça veut dire une chose, ça veut dire que Mathieu van der Poel était vraiment une jambe au-dessus de tout le monde, en tout cas jusqu'à 10 km de l'arrivée, puisqu'il a dit après que dans la suite de l'interview que vous avez diffusée il y a quelques instants, que à 10 km de l'arrivée il en pouvait plus, quoi. Enfin vraiment, ouais. Et qu'il avait jeté ses dernières forces pour soulever son vélo justement sur la ligne.
Au bord d'épuisement.
Rapide bilan des Français sur ce Tour des Flandres. On n'attendait pas forcément Monts et Merveilles. Valentin Madouas, voilà. Et puis Julien Alaphilippe qui on s'y attendait. Il l'avait dit d'ailleurs à ton micro, hein, il y a quelques jours, et il s'attendait pas à remporter cette course.
Ouais, pas de miracle, hein. Il disait Julien Alaphilippe, il s'attendait pas à des miracles. C'est pas qu'il ait pas les jambes, Julien Alaphilippe, mais il a un souci, un petit peu plus problématique, qui a fait qu'aujourd'hui sur les pavés c'était vraiment très compliqué, ça lui faisait mal, Julien Alaphilippe. Donc c'est peut-être l'une des raisons pour lesquelles aujourd'hui il termine à plus de 7 minutes. Je sais plus exactement dans quelle position, mais il termine à plus de 7 minutes. Saluons la performance de Valentin Madouas malgré tout, qui termine 16e. Voilà, c'est loin, hein, de la troisième place qu'il avait prise il y a deux ans sur ce Tour des Flandres. Mais bon, quand on voit les conditions, et Marion, tu les as soulignées, apocalyptiques du jour, voilà.
Absolument.
16e place, c'est pas si horrible que ça.
Et tu as retrouvé également Julien Alaphilippe après la course, on écoute.
Je me suis retrouvé devant un moment après vraiment dans le final, j'avais toujours du mal à me placer, c'était un peu compliqué, j'ai commencé à choper froid, enfin voilà. C'était pas. Ouais, j'ai perdu un peu le fil de la course, quoi.
Merci Arnaud, on te retrouve.
Oui, il a fini 10e.
Merci les amis.
Alaphilippe à 7 minutes 43 secondes.
Ouais, on te retrouve.
10e, non. Non,
70e.
Je pense.
70e.
Ah, 70e, oui, d'accord.
Oui.
Ok.
À 7 minutes 43.
Malheureusement pour lui. Merci beaucoup Arnaud et on te retrouve très vite sur RMC. Merci pour cet après-midi du Tour des Flandres. Et notamment la semaine prochaine, dimanche prochain, Paris-Roubaix. Émission exceptionnelle. Les grandes gueules du sport seront en direct de Compiègne pour vous raconter cette course. Ce sera le départ de Paris-Roubaix, donc dimanche prochain. Alors les Français, vous l'avez bien entendu, n'ont pas brillé en Belgique, mais il y en a un qui flambe aux États-Unis. Il s'appelle Léon Marchand.
Lui, il a brillé. Très bien. Je te confirme.
Et il est en train de rendre dingue les Américains. On retrouve notre envoyé spécial à Indianapolis pour les finales universitaires qui viennent de s'achever. Julien Richard, bonsoir Julien.
Bonsoir Marion, bonsoir JC.
3 victoires individuelles, 3 records à la clé. Bref, notre nageur français a été cette semaine une nouvelle fois stratosphérique.
Oui, et sa dernière course hier soir est assez marquante peut-être. C'est pas un record, mais je trouve ça très parlant. Léon Marchand est au départ du relais 4x100 nageur. Il est face au meilleur sprinter de la compétition. C'est pas son royaume là, au français. Eh bien, il va toucher premier, troisième performeur de l'histoire sur 100 nages libres dans une même compétition. Il a donc été capable de faire le match sur du sprint. Hein. Il a aussi nagé d'ailleurs le 100 brasses le plus rapide de l'histoire dans un relais. Capable d'exploser de près de 4 secondes le record du 500 yards nage libre, une épreuve qu'il découvre depuis peu, capable d'assommer la concurrence sur ses courses fétiches aussi, le 404 nage, le 200 brasses, 3 records universitaires battus, même lui, c'est un peu bluffé lui-même.
Surpris sur quelques courses, ouais, vraiment, parce que je pensais pas être capable de faire ça, surtout de le répéter pendant 3 jours, c'est très intense, et même le dernier relais, au final, je fais un super temps, donc j'ai vraiment réussi à bien gérer mon énergie au fur et à mesure de la semaine, et je suis surpris, c'est trop bien.
Léon Marchand a véritablement porté son univers d'Arizona State vers un premier sacre historique. Trophée à la main hier soir, on l'a longuement vu savourer avec ses coéquipiers hier. Bob Bowman, l'entraîneur, n'a pas échappé au seau d'eau renversé sur lui par ses nageurs, puis un petit plongeon dans la piscine avec tout le monde. C'est aussi la conclusion de ses 3 premières années aux États-Unis et l'ancien mentor de Michael Phelps a pu mesurer le chemin parcouru par sa pépite.
So much. He's grown from a little boy to a little man.
Il est passé d'un jeune garçon à un jeune homme. Il est génial, il est plus mature, il est évidemment devenu plus fort. Ses entraînements sont de mieux en mieux parce qu'il s'applique. Donc oui, il a bien progressé.
So yeah, he's improved quite a bit.
Ce qu'il faut aussi peut-être noter, et nous, vu de France, ça va nous paraître un peu abstrait, c'est pas vraiment notre culture, mais ce que l'on a aussi vu ici, c'est que Léon Marchand a endossé un nouveau rôle de leader, un rôle de modèle pour ses jeunes coéquipiers dans ce programme-là universitaire. Et au-delà de ce qui se passe dans l'eau, bah, c'est aussi une carte importante pour lui pour la suite.
Ouais, Marion, il arrive encore à t'impressionner, Léon Marchand?
Oui, absolument. Et puis moi, ce que je trouve incroyable et ce qui me fascine en lui, c'est sa capacité à avoir une éthique de travail absolument exceptionnelle. Chez aujourd'hui, Michael Phelps a autant de respect pour lui, c'est parce que justement, il a compris, il a vu aux côtés de Bob Bowman la capacité de travail qu'avait le Français. Il a énormément progressé, il s'est beaucoup musclé, il a gagné énormément en puissance. C'est pour ça que son crawl est devenu bien meilleur. Ses coulées aussi sont bien meilleures. Donc au-delà de battre tous ses records, moi, c'est surtout son niveau de natation et sa capacité d'amélioration qui m'impressionne énormément. Et puis il avait quand même énormément de pression sur les épaules. Alors on en parlera certainement aussi des JO qui vont arriver, cette pression qu'il va avoir, mais le NCAA aux États-Unis, c'est quelque chose qui compte énormément, surtout lorsqu'on représente une université. Il est arrivé à 3 ans dans l'université de Temple en Arizona, l'Arizona State, qui était 12e au classement national, qui avait absolument aucune chance d'être champion NCAA. Aujourd'hui, il soulève le trophée en grande partie grâce à Léo Marchand, d'en être capable à son âge d'assumer autant de choses. Moi, ça m'impressionne énormément. Et puis lorsque j'entends les voix de la natation s'enthousiasmer, en particulier Roddy Gaines qui dit de Léon Marchand de voir en lui le meilleur nageur de la planète actuellement, c'est forcément quelque chose qui nous réjouit énormément en tant que Français.
Oui, mais Julien, justement, pour les Américains, pas de doute, il va devenir une légende. En tout cas, ils sont tous fous de lui.
Oui, alors je l'ai un peu répété toute la semaine, mais c'est vrai que cette March Madness, hein, la folie du mois de mars ici, s'est transformée en...
Marchand Madness.
En folie, Léon Marchand. C'était clairement l'attraction par tout ce qu'on a dit précédemment, donc sportivement, sa palette de courses incroyable. On a pu constater d'ailleurs que ça commençait à sortir aussi du cadre purement du petit monde de la natation. Une journaliste du New York Times était là, par exemple, pour voir le petit Français qui cartonne aux États-Unis. Et puis, on retient ce que nous a dit Roddy Gaines, ancien champion olympique du 100 mètres.
Oh my goodness!
Aujourd'hui consultant, il est la voix de la natation aux États-Unis.
He's the best swimmer in the world.
C'est le meilleur nageur du monde. Il sait absolument tout faire. Il y en a un comme lui par génération. On a eu Michael Phelps, Max Spitz, Johnny Weissmuller. Et là, on a la génération Léon Marchand.
But now we've got the Léon Marchand.
Léon Marchand!
Roddy Gaines, qui avait décroché 3 titres olympiques à domicile à Los Angeles en 84 et qui nous a dit qu'il voyait le Français décrocher 4 titres olympiques à Paris, qu'il fallait qu'il se serve de l'amour que va lui envoyer le public français.
Bon, Julien, c'est quoi la suite là pour Léon Marchand? Il reste 4 mois avant les JO, c'est court, mais bon, c'est long aussi parce que nous on l'attend là, Léon Marchand.
Alors, Léon Marchand est rentré très tôt ce dimanche matin à la maison, à Tempe, dans la banlieue de Phoenix. Retour à l'entraînement très vite, la tête vers Paris. Première compétition en grand bassin, donc en bassin olympique, dans 2 semaines à San Antonio, au Texas. Quelques examens fin avril, un long stage ensuite en altitude à Colorado Springs. Et puis, retour en France, une grosse semaine avant les sélections olympiques qui auront lieu mi-juin à Chartres.
How do I imagine his return to France?
Un retour au pays, déjà bien cadré par Bob Bowman.
As late as possible.
Aussi tard que possible, dans le cadre le plus privé possible. C'est mon but, donc je le garde ici le plus longtemps possible et j'essaye de le cacher de vous le plus longtemps que je puisse.
En France, il fera sans Bob Bowman, qui le rejoindra après les sélections olympiques. Lui sera sur les sélections américaines. Il s'entraînera avec Nicolas Castel à Toulouse, son entraîneur. Un retour un peu sous cloche, il sera chez papa-maman, Céline et Xavier, qui étaient là cette semaine avec le petit frère.
Ah, on n'a pas besoin, il est tout le temps sous cloche. Il va falloir qu'on limite, évidemment, parce que c'est... L'objectif, c'est quand même qu'il soit quand même assez frais, qu'il soit disponible pour nager vite. Le seul objectif, c'est qu'il puisse nager vite. Donc oui, on va essayer de gérer ça comme ça, mais comme on fait depuis 2-3 ans maintenant, quoi. Donc voilà.
La dernière ligne droite est lancée. Maintenant, il reste un peu moins de 4 mois. Le temps aussi pour Bob Bowman de parfaire son français.
Léon est un nageur merveilleux.
Nageur merveilleux, merci Bob Bowman et Julien Richard. C'est vrai, Marion, c'est très intéressant ce que dit sa famille, ce que dit son entraîneur. Là, il va falloir le couver, là. Il ne faut pas trop l'exposer à la France parce que il va devoir assumer un statut incroyable déjà pour son âge. Il a 21 ans.
Oui, totalement, mais je crois justement qu'il est parfaitement bien entouré parce que Bob Bowman est un maître dans la gestion de tout ça, c'est-à-dire le temps passé en dehors des piscines, le temps consacré aux médias et puis le temps consacré à la concentration nécessaire avant de plonger et de réaliser ses courses. Phelps a nagé 17 fois en 8 jours au JO de Pékin en 2008. et on connaît ses résultats sur ces JO-là. Donc Bob Bowman va être parfaitement amène pour moi de gérer et d'apprendre à gérer à Léon Marchand ses temps forts, ses temps faibles, apprendre à récupérer, apprendre à pas être sursollicité par les médias, de rester dans une bulle pour arriver à performer. Après, pour moi, il sera le grandissime favori sur le 200 mètres 4 nage et 400 mètres 4 nage. On sait qu'il va tenter de s'aligner sur plus de compétitions, en particulier de 200 mètres brasse, où il y a un Chinois qui, pour l'instant, est détenteur du record du monde, qui s'appelle Qin Heyyang. Donc, ça sera un petit peu, je pense, un peu plus difficile à aller le battre. Il y a le 200 mètres papillon qui est aussi largement jouable. J'en ai parlé au niveau de sa puissance. Il a beaucoup progressé. Donc, pourquoi pas sur le papillon et sur le crawl aller chercher d'autres médailles. Mais pour moi, il est parfaitement entouré. Et puis surtout, il a la capacité lui-même, parce qu'il nous a prouvé déjà d'aller faire de très grands Jeux Olympiques à Paris et de régaler le public. Je pense qu'il va se servir de toute cette énergie. Je pense que la piscine de la Défense Arena va être complètement pleine. Michael Phelps disait que quand il était sur des compétitions aux États-Unis, se servir de toute l'énergie du public, qu'il la ressentait dans chaque muscle de son corps. Je pense que ça va être la même chose pour Léon Marchand à Paris.
Bon, on attend et on guette son retour, évidemment, à Léon Marchand en France. Merci beaucoup, Julien Richard, d'avoir été avec nous en direct des États-Unis. Et bon retour, toi aussi, en France. Tu vas voir, il y aura moins de journalistes pour t'accueillir, mais on sera là et on sera très heureux aussi. 19h48, restez bien avec nous. Dans quelques instants, nous retournons au Stade Vélodrome pour vous donner les compositions d'équipe. Ça y est, ça vient de tomber. Je vous rappelle l'information principale, Kylian Mbappé, capitaine et titulaire, forcément. A tout de suite sur RMC.
RMC Bartoli Time, Jean-Christophe Drouet,
Marion Bartoli.
19h51 de retour dans Bartoli Time. C'est la toute dernière ligne droite avant que, bien évidemment, Jean-Louis Tour vous prépare cet avant-match exceptionnel avant ce classique entre l'OM et PSG. D'ailleurs, je crois qu'on va tout de suite rejoindre Jean-Louis, n'est-ce pas, mon JC?
Oui, mais c'est pas tout, parce que là, on a la grosse équipe ce soir. Là, tout le monde est là, même dans Bartoli Time. Jean-Louis Tour, Jeannot Séguier, Florent Germain. Bonsoir, messieurs.
Salut tout le monde.
La triplette.
Une belle troisième ligne.
Bonsoir, Marion. Bonsoir.
Une belle troisième ligne. Certains ont des physiques de piliers, mais je ne donnerai pas de nom.
Ouais, fais attention, toi. Hein.
Bon, enfin, si on fait une première ligne à 2-3, il y en a qui va se casser le dos.
Mais j'ai rien dit, Jeannot.
Il y en a qui va se casser le dos.
Toi, c'est incroyable.
Ah non, pas pour moi. Il y en a qui va se casser le dos.
Moi, je pense que
non, moi, j'assume totalement.
On passe pas cher en MPG.
Voilà pourquoi il faut absolument écouter RMC à partir de 20h, parce que franchement, ils vont vous faire vivre une soirée exceptionnelle. Je crois savoir que vous avez au moins une des deux compositions d'équipe. On va les donner à tous les auditeurs qui nous écoutent. Je crois que c'est l'OM, Florent Germain.
On a même les deux, je crois, Jeannot.
Elle est en train de tomber.
Ouais. La compo du Paris Saint-Germain est en train également d'arriver. La compo marseillaise, j'ai un petit doute sur le positionnement d'un homme qui est peut-être le titulaire surprise de cette rencontre, c'est Luis Enrique. On va voir. Paul Lopez dans le but. Si c'est du classique, c'est un 4-2-3-1 avec Ulysse Garcia à droite, Quentin Merlin à gauche, Balerdi et Mbemba en charnière centrale, Veretout et Kondogbia devant la défense, et donc quatuor offensif qui serait composé de Harit, Ndiaye, Luis Enrique et de Aubameyang. Cette semaine à l'entraînement, pour pallier les absences et les blessures, Luis Enrique a aussi été testé en tant que piston droit. Donc ce serait Merlin piston gauche, Luis Enrique piston droit, et du coup un trio, un axe à trois avec Balerdi, Mbemba et Ulysse Garcia. Voilà, on a un petit point d'interrogation, mais il faudra surveiller le positionnement de Luis Enrique, titularisé donc ce soir par Jean-Louis Gasset.
Alors pour ce qui est de Luis Enrique, le coach du Paris Saint-Germain, habituellement on s'attend toujours à une surprise. Bien la surprise, c'est qu'il n'y en a pas. Donnarumma est dans les buts, Hakimi est à droite, Danilo avec Beraldo pour la charnière, Lucas Hernandez côté gauche, milieu de terrain composé de Zaïre Emery, Vitinha et Ruiz, et dans le secteur offensif le brassard de capitaine et la titularisation donc de Kylian Mbappé à gauche, Dembélé à droite et Kolo Muani dans l'axe. Voilà pour la composition parisienne.
Merci Jeannot, merci Florent, Jean-Louis et Marion. On a envie de vous entendre sur Kylian Mbappé. On se demandait s'il serait titulaire pour cette rencontre. Il est bien titulaire, il est capitaine du Paris Saint-Germain. Je rappelle que Kylian Mbappé n'a jamais perdu face à l'Olympique de Marseille.
Oui, ça va, ça
9
va.
Buts marqués,
ça va, le
deux
Parisien,
doublés.
C'est bon.
Non mais c'est pas ça, ce sont les faits, pardonne-moi.
Oui,
Marion,
je sais, c'est
un gros match d'Mbappé, est-ce que c'est une certitude pour vous Jean-Louis, et après Marion? Jean-Louis, est-ce que c'est une certitude pour toi ce soir? Ce sera certainement son dernier classique, très certainement.
certitude, je suis pas voyant, mais il y a quand même beaucoup de signaux positifs. Oui, je pense que Mbappé ces derniers temps choisit ses matchs. Et clairement, il a pas choisi les matchs de l'équipe de France. Donc, je pense qu'il s'est préservé pour le match de ce soir. Je pense que la discussion avec Luis Enrique, après le fameux épisode monégasque, a été, coach, faites ce que vous voulez, mais les gros matchs, je veux être là. La preuve ce soir, il est titulaire et, je suis convaincu qu'il a envie de marquer le coup. C'est un, il connaît le poids des choses, Mbappé. C'est quand même, il a quand même répondu présent dans pas mal de gros rendez-vous, surtout avec l'équipe de France. Mais là, il sait que c'est une soirée particulière, son dernier OMP. PSG, il aura vraiment envie de briller et oui, je pense qu'il va être bon ce soir.
Marion, est-ce que c'est une certitude pour toi le gros match de Mbappé ce soir ?
Je suis complètement d'accord avec Jean-Louis. J'aimerais rajouter un élément qui m'a quand même surpris dans la communication de Luis Enrique. Il a donné un interview il y a quelques jours avant ce classique. Et donc on lui demande si justement il va aligner Kylian Mbappé parce que ça va être son dernier classique au Vélodrome. Et il répond mais pourquoi ce serait son dernier classique ? Donc on est quand même tous surpris par sa réponse en disant oui, mais non, mais je crois que si le PSG est capable d'aller gagner les 4 trophées cette année, on peut arriver à faire changer Kylian Mbappé d'avis et qu'il reste dans cette équipe. Donc il reste quand même assez énigmatique, je trouve, cet entraîneur. Oh, et en tout cas, lui est persuadé que voilà, c'est pas forcément... J'aimerais quand même donner cette information aux auditeurs parce que moi, ça m'a franchement surpris dans la communication. En tout cas, lui n'est pas persuadé qu'il va partir. Mais je trouve ça bien que Kylian Mbappé, soit aligné ce soir parce que pour moi, c'est aussi respecter ce classique, respecter ces deux équipes qui sont emblématiques du championnat français et ça depuis des décennies. Donc, je trouve ça extrêmement bien que Kylian commence ce soir avec le brassard de capitaine. Tu l'as dit, contre l'Olympique de Marseille, il y a en plus des stats qui sont impressionnantes. Donc c'était important pour moi qu'il commence ce match ce soir et je suis complètement d'accord avec Jean-Louis. Je pense qu'aujourd'hui, il choisit ses matchs et qu'il va avoir à cœur, malheureusement entre guillemets pour l'OM, mais de faire un gros match.
Ouais, c'était au micro de Prime Vidéo hein, et Luis Enrique n'est pas une surprise de communication près. Oui. Rapidement, en 20 secondes, Jean-Louis, le dispositif ce soir, là, dans quelques minutes, la grande soirée OM-PSG en direct du Vélodrome.
C'est une plongée dans l'ambiance de la saison puisque cette OM-PSG ce soir sera sûrement la plus grosse ambiance de la saison. Le stade sera plein d'ici quelques minutes. On va vous faire vivre l'ambiance qui va monter autour du Vélodrome. Là, sous nos yeux, ça commence à bien se remplir. Et puis, on va débattre avec vous au 32-16 avec Kevin Diaz qui est là tous les dimanches soirs et Eric Dimeco qui nous fait honneur de sa présence pour l'événement.
Bravo, Eric.
Il sera là pour... débattre
soutiens
autour
l'OM,
de Mbappé,
Eric,
autour
s'il te plaît.
De l'OM,
fais contre
du contexte.
Quoi. Fais contre quoi.
Merci Jean-Louis. À tout de suite en direct du stade Vélodrome. On accueille le grand gagnant dans l'émission Bartoli Time ce soir. Il vient de remporter le maillot des Bleus. Fabien, bonsoir.
Bonsoir JC, bonsoir Marion.
Bon,
c'est une belle soirée qui débute, non?
Ouais, c'est excellent, c'est même tout le week-end qui est au top parce que le LOSC a gagné hier. Ce soir, vous m'offrez un t-shirt, je suis ravi.
Un t-shirt, un maillot des Bleus, le maillot pour l'Euro 2024. Tu te rends compte?
Ouais, puis il est magnifique en plus.
Bon, merci de ta fidélité à RMC, à Bartoli Time et vraiment bravo et n'hésite pas à nous envoyer une petite photo. Belle soirée à toi.
Je ferai. Merci à vous deux.
Bravo,
merci Fabien.
Félicitations.
Gagnez le nouveau maillot des Bleus sur RMC avec Intersport et rejoignez la grande famille bleue. Intersport, distributeur officiel de l'équipe de France de football.
Bon match ce soir Marion, OM-PSG. On se retrouve la semaine prochaine.
Absolument, mon JC, bon match à tous. Surtout profitez bien de cette soirée, que vous soyez supporter du PSG ou de l'OM. Ça reste quand même qu'un match de foot. Profitez, restez bien connectés sur les ondes d'RMC. Vous allez vivre absolument une soirée fantastique à nos côtés. Et moi, je vous retrouve avec un immense plaisir la semaine prochaine. Toujours avec à mes côtés Jean-Christophe Drouet. On sera là avec vous dimanche soir à 19h. Au revoir.
RMC jusqu'à 20h. Bartoli Time.